le chant du coq ou au secours de la foi ou de notre foi. Amen. Et on va tourner ensemble. Si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner ensemble avec moi en Luc au chapitre 22. On va lire un certain épisode justement où on voit cet épisode où l'apôtre Pierre avec Jésus est celui justement pris avec cette histoire de coq. Amen. Et si vous avez votre Bible, je vous invite également non seulement à tourner, mais à mettre peut-être un marque-page et à garder votre doigt là-dessus parce que on va voir plusieurs versets ensemble ce matin, mais ce verset, ce passage qu'on va lire est vraiment le fondement de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour apporter ce matin et dans les prochaines semaines. Donc, Luc, chapitre 22, au verset, on va commencer à lire ensemble au verset 31. Je le lis dans la version Semeur. Ça va comme suit, ça dit « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. » Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, au verset 33, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison pour toi ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par trois fois nié me connaître. On va sauter dans le même chapitre, on va aller au verset 55. On va aller un peu plus loin, donc toujours Luc chapitre 22, mais on va aller plus loin au verset 55, qui nous dit « Au milieu de la cour, on avait allumé un feu où les gens étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu du groupe. Une servante, en le voyant là, près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit « En voilà un qui était aussi avec lui. » Mais Pierre le nia en disant « Mais non, je ne connais pas cet homme. » Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella « Mais toi aussi, tu fais partie de ces gens. » « Mais non, déclara Pierre, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance, « C'est sûr, cet homme-là était aussi avec lui. » D'ailleurs, c'est un Galiléen. « Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, » s'écria Pierre. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit, « Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Le chant du coq, c'est quoi? Le chant du coq, c'est un moment dans notre vie où tu perds tes repères. Les repères ici pour Pierre, c'était quoi? De un, déjà Jésus, son maître avec lequel il a marché environ trois années, son maître, celui que tout son peuple en fait attendait comme étant le Messie, mais le Messie allant délivrer tout le peuple d'Israël, tout le peuple juif de l'oppression des Romains. Mais ici, son Seigneur s'en va pour mourir. Et à ce moment-là, les apôtres n'avaient pas encore totalement compris que le Seigneur devait aller mourir. Donc, non seulement il s'apprête à perdre son maître, mais de l'autre côté, il a perdu ses propres repères personnels, parce que quelques instants avant, Pierre crie haut et fort, « Non, Seigneur, s'il le faut, je vais aller en prison pour toi. S'il le faut, je vais mourir pour toi. » Mais un peu plus tard, trois personnes inoffensives, pas armé du tout, l'interroge sur quoi? L'interroge en fait sur son identité, sur qui il est, sur sa foi. N'étais-tu pas avec cet homme-là? À trois reprises, non, 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 je ne sais pas de quoi vous parlez. Et si Pierre se retrouve totalement perdu? Et la parole de Dieu nous dit qu'il pleure amèrement. Pourquoi? Parce que c'est la confusion totale. Pourquoi? Parce qu'un homme, ou quelques instants auparavant, pour lequel j'étais prêt de mourir, aujourd'hui, je réalise qu'en réalité, ma foi envers lui, mon allégeance envers lui, n'était peut-être pas aussi solide et aussi intense que je l'avais cru. Donc, qui suis-je? Quel est l'objet de ma foi? Qu'est-ce que je fais maintenant? qui va me relever plus que la personne qui avait l'habitude de m'encourager, la personne qui avait l'habitude de me guider, c'est celui-là même qui s'en va vers la mort, celui-là même que je viens de renier par trois fois, donc qui maintenant pourra me relever? Donc ici, pour Pierre, c'est une bataille de tous les instants. C'est une bataille dans laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas, chacun d'entre nous sommes à risque d'entendre le chant du coq. La parole de Dieu nous dit quoi? Elle nous dit, celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Chacun d'entre nous sommes à risque de vivre des moments de confusion, des moments de doute, des moments où ce que tu crois que tout va bien pour toi, que tu es sous contrôle, que tout est sous contrôle. Des moments où tu crois justement, écoute, que n'importe qui vienne devant moi, Seigneur, je vais te défendre. Que lorsque Jésus a commencé à expliquer à ses disciples que, écoute, je dois aller mourir, ils vont venir me chercher, ils vont m'emmener mourir, Pierre, il dit, non, il n'y a personne qui va mettre la main sur toi. Hein? Donc, d'un côté, on voit le fait que Pierre n'avait pas encore compris cette chose-là. L'importance de Jésus qui devait aller sur la croix, mais de l'autre côté, on voit également que Pierre lui-même n'avait peut-être pas encore eu sa foi réellement testée. Hein? Parce que Jésus lui dit, encore une fois, gardez votre doigt à ce passage-là, on va y revenir, mais Jésus lui dit en Luc, au chapitre 18, donc quelques chapitres plus bas, au verset 8. Luc, chapitre 18, verset 8, Jésus apporte une question, une interrogation très importante. Il dit quoi? Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il s'interroge sur le fait de dire, qui va persévérer, va garder la foi jusqu'à la fin? Parce que où est-ce qu'il dit ça en Luc chapitre 18? Jésus le dit à la fin de cette parabole de la femme avec le juge inique. Et la femme qui s'en va implorer quelque chose à ce juge que la parole de Dieu nous dit, c'est un juge qui connaît pas Dieu, qui ne craint pas Dieu, qui n'a d'égard pour personne. Mais pourtant, elle insiste pour que le juge lui fasse, lui rende justice. Et trop souvent, on a regardé ce verset-là comme étant le fait de dire, oui, mais ok, il faut que t'insistes jusqu'à ce que ta prière soit exaucée, insiste, il faut que tu agaces Dieu, tu achales Dieu, tu l'importunes, parce qu'ici, on voit que la veuve importune Dieu, ou plutôt importune le juge. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit, au commencement de cette parabole-là, ce que cette parabole signifie. Parce qu'au verset 1, en Luc 18, la Bible dit quoi? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Donc, c'est le début. Le début, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Mais la conclusion, c'est lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore des gens qui auront continué à prier sans se relâcher? Parce que la plus grande bataille dans laquelle nous sommes, mes amis, c'est la bataille de notre foi. On y revient en Luc 22. Au verset 31, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Et la version seconde dit, Satan cherche à vous cribler comme le froment. Hein? J'ai un peu honte de le dire, mais au début de ma vie chrétienne, la première fois que j'ai lu ce verset-là, je lisais en fait, des fois tu lis, mais tu lis pas, et tu lis d'autres choses. Et ce que je lisais, c'est, Satan veut vous cribler comme le fromage. Hein? Et comment j'ai interprété ce verset, c'était simple. J'ai dit, ah ouais, tu sais comment on dit criblé, hein, criblé de balles. Et le fromage, ça veut dire, ah, c'est un fromage plein de trous comme un fromage suisse. OK? Mais non, c'est ça. Donc, je me disais, ah, okay, Satan veut nous attaquer, veut nous trouer, comme on trouve le fromage. Amen? Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. OK? Ici, c'est quoi? La version semeur le dit bien, en fait. Le froment, c'est, ça explique, c'est le grain de blé. Amen? Et le criblage, c'est cette étape-là où on met le blé dans un tamis. Amen? Et on secoue. On le secoue pour le tamiser, pour faire quoi? Pour enlever l'enveloppe qui protège le grain de blé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pour enlever la balle. Pour enlever la foi qui vous couvre, comme on enlève la balle qui couvre le grain de blé. Vous qui? Vous, dans ce contexte-là, les 12 hommes qui avaient reçu un mandat de Dieu. Les 12 hommes qui avaient ce mandat que personne d'autre avant eux dans l'histoire de l'humanité avait reçu. Ce mandat de prendre cette parole de vie, cette bonne nouvelle et d'aller répandre la bonne nouvelle. Ce mandat que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que ces hommes-là ont réussi à faire ce qu'ils devaient faire. Imaginez s'ils avaient échoué. Imaginez s'ils avaient échoué. Parce que voyez-vous, c'était exactement le plan de l'ennemi. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Le but de Satan, c'était quoi? C'était de leur enlever leur foi. C'était de les laisser dans une période de doute, d'inquiétude, d'incompréhension, de dire, mon maître est mort. Est-ce que c'était vrai tout ce qu'on a vécu ces 3 dernières années? Et s'il revenait jamais? Oui, c'était beau tout ça. C'est beau ce qu'on a vu, les gens guéris, tout ça, les démons chassés. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, nous? Ils auraient pu se disperser, aller chacun de leur côté. Et ce message de l'Évangile serait mort avec eux. Hein? Vous avez un rôle très important à jouer. Parce que si tu perds la foi, tu perds quoi? Si tu perds la foi, tu perds tout. Parce que qu'est-ce que Hébreux 11 nous dit? Hébreux 11 nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans la définition de la foi en Hébreux 11, 1, on ne parle pas de Dieu. Okay? On ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de l'Évangile, on ne parle pas de la bonne nouvelle, on ne parle pas de Christ. Nous dit seulement, c'est quoi? C'est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Donc, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui quand même mettent leur espérance fermement dans des choses. Il y a des gens qui continuent dans la vie, qui travaillent jusqu'à obtenir les choses qu'ils veulent et qui mettent leur foi dans ces choses-là. Donc, même si tu ne connais pas Dieu, si tu perds ta foi dans les choses pour lesquelles tu travailles si fort dans ta vie, tu perds tout. Parce que tu viens de perdre toute raison, toute motivation d'avancer, de continuer. C'est la foi. C'est la foi. Notre plus grand atout, notre plus grande arme, notre plus grande victoire, c'est notre foi. Et soyons conscients aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, mes amis, que tout ce qui vient contre vous dans ce monde, qui n'est pas de Dieu, a pour seul et unique but de vous enlever votre foi. Hein? À vous seul, comme seul et unique but, de faire comme Adam dans le jardin. Et finalement, se poser la question, oui, mais Dieu a-t-il réellement dit? N'est-ce pas? Parce que si l'ennemi peut vous amener là, au point où vous vous posez la question, Dieu a-t-il réellement dit? Hein? À ce moment-là, vous êtes en terrain dangereux. Vous êtes en terrain très glissant. Mais moi, verset 32, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas te manquer. Toi, le jour où tu seras revenu à moi, le jour où tu seras converti, d'autres versions disent, fortifie tes frères. Hein? Donc, chacun d'entre nous avons également cette responsabilité. Cette responsabilité de, non seulement de rester fort, mais de fortifier nos frères également. Amen. Parce que soyons conscients là, ok? Soyons conscients que c'est, encore une fois, c'est une bataille. Hein? 1 Timothée chapitre 4, on va lire ça ensemble. 1 Timothée chapitre 4, au verset 1. Et la Bible nous dit, à partir du verset 1, donc 1 Timothée chapitre 4, nous dit quoi? Nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Remarquez ici, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Okay? On arrête ici. Comme on a dit tout à l'heure, Hébreux 11, 1, la définition de la foi ne nous parle pas de Dieu. Hein? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que lorsque la Bible ici nous dit « plusieurs, certains abandonneront la foi », ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils abandonnent la foi à Dieu. Je m'explique. Ça veut dire que leur foi, malheureusement, est mise maintenant dans des enseignements, des faux enseignements qui supposément nous parlent de Dieu, nous enseignent Dieu, des doctrines de démons qui supposément expliquent la parole, mais qui ne sont pas en accord avec la réelle foi. OK? Faites attention à ça. Parce que perdre la foi, c'est quoi? Perdre la foi, ça ne veut pas seulement dire arrêter de croire en Dieu, là. Okay? S'égarer dans la foi, ça ne veut pas seulement dire arrêter de croire en Dieu. Ça veut dire croire à un autre évangile aussi. Un autre évangile que celui qui nous a été prêché, que celui que la parole de Dieu dit. Et cet évangile-là, c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que ce que tu n'étais pas capable de faire toi-même, Christ l'a fait pour toi. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tout ce qui t'empêchait, toi, d'entrer en relation avec Dieu, Jésus l'a enlevé. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes libres, libres, libres de nous approcher de Dieu sans condamnation, sans jugement. Pourquoi? Parce que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. C'est ça la bonne nouvelle. Mais certains vont se détourner de cette bonne nouvelle-là. Et je vais vous dire la principale raison pour laquelle les gens se détournent de cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil quand tu entends un message, quand tu lis quelque chose dans la Bible qui ne fait pas ton affaire, à ce moment-là, tu vas te tourner vers quelque chose qui va davantage te plaire. Et ça, c'est dangereux. Parce que ces gens-là croient en Dieu. Amen? Ces gens-là croient en Dieu, la majorité sont nés de nouveau, mais lorsqu'on lit quelque chose dans la Bible et que je ne suis pas d'accord avec ça, même si c'est la vérité de la parole de Dieu, la tendance humaine, c'est quoi? Il n'y a pas personne qui aime ça naturellement, se faire contredire, n'est-ce pas? Hein? Dans notre nature humaine, on aime que les gens soient d'accord avec nous. On aime que les gens nous aiment. On aime que les gens nous appuient. Vous remarquerez que lorsque vous êtes en dispute avec quelqu'un ou quoi que ce soit, ou que ce soit un couple, ou souvent les couples vont aller chercher l'appui de quelqu'un qui va dire la même chose qu'eux. N'est-ce pas? Ou si tu as à juger un litige entre deux personnes, hein? Normalement, tu cherches le conseil de quelqu'un qui va approuver ce que tu fais. Je dis normalement, je dis, écoute, c'est la nature humaine. Parce que dans notre orgueil, on est tellement certain d'avoir raison que non. Ne viens pas me dire que j'ai tort. Donc, on s'entretient de paroles qui non nous édifient pas, mais qui nous approuvent et qui nous entretiennent dans notre orgueil. Mes amis, l'orgueil, c'est pas bon. L'orgueil, c'est dangereux. Très, 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 très dangereux. Parce que l'orgueil, qu'est-ce que ça fait? L'orgueil, c'est pas de Dieu. Amen? Première des choses, l'orgueil, c'est pas de Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que que tous sont esclaves de peu importe qui ils décident d'obéir. Je répète, la Bible nous dit que nous sommes esclaves de peu importe qui nous décidons d'obéir. Donc, si tu décides de te soumettre à ton orgueil et que le maître de cet orgueil-là, c'est le diable, alors, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu te mets sous. Oui, OK? Sous son influence. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de fermer les portes, de laisser aucune porte ouverte à l'ennemi. Parce que c'est lorsqu'on agit selon la chair, lorsqu'on fait les œuvres de la chair, c'est comme ça qu'on laisse la porte ouverte à l'ennemi. Et que même si tu es enfant de Dieu, parce que tu as décidé d'obéir à l'ennemi, tu ouvres une porte. Hein? La foi. Amen, vous êtes là ce matin? OK? Il y a des moments comme ça, OK? Il y a des temps pour ça. Parce que c'est très lourd dans mon cœur. C'est très lourd parce que je vois, parce que j'entends, parce que je suis en communication avec d'autres pasteurs, de d'autres églises, de d'autres régions, et je réalise que beaucoup de faux enseignements se propagent dans le corps de Christ. Amen. YouTube, c'est bon, là? Faites attention, s'il vous plaît. OK? Des fois, quand on choisit un restaurant, on prend plus de précautions des fois en choisissant un restaurant qu'en choisissant ce qu'on écoute sur l'Internet. Hein? On prend la peine d'aller sur l'Internet, de regarder le menu de ce restaurant-là. J'appelle peut-être une ou deux personnes que je sais qui sont allées manger là-bas. Est-ce que tu as aimé ça? Qu'est-ce qu'ils font comme nourriture? Quitte à me rendre sur place, des fois, il y a des restaurants qui ont le menu à l'extérieur. Donc, je regarde le menu. Hein, je fais semblant, je rentre un petit peu, je regarde le décor. OK. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais à quelques occasions, ça m'est déjà arrivé de m'asseoir dans un restaurant et finalement, je me lève et je dis non, je ne mange pas ici. Okay? Mais pourtant, des fois, on ouvre l'ordinateur et on regarde, oh, un message, oh, j'écoute. Sans discernement. Et tout ce qu'on nous donne, on le mange. Hein? C'est pour ça qu'Éphésiens 4, 11 nous parle des dons du ministère. De ces dons-là qui ont été donnés pour l'Église. Pourquoi? Afin que l'Église, le corps de Christ, grandisse. Pourquoi? Qu'on soit plus ballottés comme des enfants à tout vent de doctrine. Des fois, je dis, dans le milieu chrétien, des fois, j'ai l'impression que c'est comme l'entraînement. Vous savez, dans le milieu de l'entraînement, il y a une nouvelle mode à chaque 3 mois. Et tu t'en vas dans les gymnases, là, dans les centres de conditionnement physique, à chaque 3 mois, il y a une nouvelle mode, un nouveau produit. Un exercice qui, oh, pendant des années, tout le monde l'a fait, et là, finalement, cet exercice-là est banni. Non, c'est pas bon. À chaque 3 mois, il y a un programme magique. Fais-le 10 minutes par jour seulement, et voici ce que tu vas avoir. Mais pourtant, la science de l'entraînement est très simple. Il y a des principes de base qui sont très simples et immuables, qui ne changent pas. Du genre, si tu veux perdre du poids, il faut que tu en dépenses plus que tu en prennes. C'est assez simple, n'est-ce pas? OK? Et dans la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des principes de base qui sont immuables. Et mes amis, c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. C'est ma responsabilité, en tant que pasteur, en tant qu'enseignant, de vous donner la bonne nourriture. Mais c'est votre responsabilité de vous assurer également que ce que vous mangez est bon. La parole de Dieu nous montre quoi? Que les chrétiens de Béré, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors que Paul lui-même prêchait la parole, la Bible nous dit qu'ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce que Paul leur enseignait était vrai. Mais combien d'entre nous ont fait ça lorsqu'on entend un message? Pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tu entends un message une fois, tu entends un autre message une autre fois de quelqu'un d'autre qui contredit celui que tu as entendu l'autre fois, donc là, tu es tout mélangé. Parce que tu vas en entendre un troisième, je te dis, qui va contredire les deux autres, et là, c'est fini. Mais si tu ne prends pas le temps de plonger ces versets, de plonger tes regards dans les versets, parce que notre foi, mes amis, wow. C'est tout ce que nous avons de plus précieux, c'est notre foi. La Bible nous dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ce qui nous rend victorieux dans cette vie-là, c'est quoi? C'est notre foi. Donc, ne soyez pas surpris que la parole nous dit ici que Satan a essayé de les cribler comme le froment, d'enlever leur foi comme on enlève l'enveloppe sur le grain de blé. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'en notre foi est notre victoire. Que tant et aussi longtemps que nous sommes fermes dans notre foi, il n'a rien sur nous. Comme Jésus a dit lui-même, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien sur moi. Pourquoi est-ce qu'on trouve des fois, au contraire, qu'il met sa main sur nous? C'est comme j'ai dit plus tôt, parce qu'on lui ouvre la porte. Hein? Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Dans les prochaines semaines. On va voir ensemble comment se battre pour notre foi. Parce que c'est un combat. C'est un combat. 2 Timothée 4, verset 7. Hein, 2 Timothée 4, verset 7, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. qui écrit à Timothée et qui lui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Celui qui est vainqueur, c'est celui qui, malgré toute intempérie, malgré tout problème, malgré toute circonstance, malgré toute épreuve, malgré tout échec, malgré toute réussite, malgré tout ce qui vient contre lui, celui qui réussit, c'est celui qui, à la fin, a gardé la foi. C'est celui qui, à la fin, reste debout, mes amis. C'est pas celui qui est tombé. L'important, c'est pas combien de fois tu tombes. L'important, c'est qu'à la fin, tu te trouves debout dans la foi. Donc, si ce matin, si il y a la semaine passée, si je ne sais pas quand tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. Et sache que le Seigneur est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour toi. Pourquoi? Parce que comme Satan a essayé de cribler les disciples, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il essaie de, c'est quand même drôle, hein, de nous secouer. Est-ce que vous vous êtes déjà senti secoué? C'est peut-être pas un hasard. Hein? C'est peut-être pas un hasard. C'est parce qu'il y a quelqu'un. C'est un peu son travail à temps plein, là. Non, mais sérieusement. Hein? Sérieusement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, lui, que vous secouer, hein? Que vous ébranler. Oui, mais Dieu a-t-il réellement dit? Oui, mais est-ce que c'est valable pour moi? Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais si ça ne fonctionne pas? C'est le genre de territoire dans lequel il veut vous amener. Parce que quand on commence à se poser ces questions-là, c'est là qu'il amène toutes sortes de réponses. Okay? C'est là qu'il vient et qu'il amène toutes sortes de réponses pour essayer de nous dévier de la vérité. C'est pour ça, mes amis, je vous le dis, en tant que chrétien, vous n'êtes pas obligé de lire la Bible. OK? Ce n'est pas une loi, ce n'est pas quelque chose, tu dis maintenant que j'ai donné ma vie à Dieu, je jure solennellement que je vais lire ma Bible à tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de lire votre Bible. Okay? Je vous le dis, relaxez là. Si vous n'avez pas lu votre chapitre aujourd'hui, c'est pas grave. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est quoi? C'est ça la vérité. OK? Mais la Bible, le fait de donner une Bible à quelqu'un, c'est pas ça qui va sauver la personne, non? C'est quoi? C'est la connaissance de cette vérité. Et dans la connaissance de cette vérité, il y a l'application de cette vérité. Okay? C'est ça qui vous rend libre. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que Christ a tout donné pour qu'on soit libre et nous a libérés. Mais parce que trop d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont libres, ils vivent en réalité encore comme des esclaves. Hein? La Bible nous dit quoi? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, même s'il est héritier de tout. Ça signifie quoi, ça? Ça signifie que l'enfant, légalement, il a tout hérité de son père. Amen? Mais tant qu'il est enfant, tant qu'il n'a pas atteint l'âge légal pour hériter, il est comme l'esclave, parce que l'esclave n'a pas de droit sur ce qui appartient au maître. Donc, pareillement, tant et si longtemps que l'enfant n'a pas atteint l'âge légal, il n'a aucun droit sur ce qui appartient au maître, même si, légalement, tout lui appartient. Donc, nous-mêmes, si en tant qu'enfants de Dieu, nous persistons à rester des enfants dans la connaissance de notre parole, même si la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Christ, si nous ne prenons pas le temps de connaître ce qui est à nous, même si légalement tout nous appartient, nous ne différons en rien d'un esclave. Et de la même manière qu'un étudiant, que la réussite d'un étudiant ne dépend pas seulement sur l'enseignement de son professeur, de la même manière, votre réussite en tant qu'enfant de Dieu ne dépend pas seulement de l'enseignement qui est donné ici. Ah oui, écoute, est-ce que ça fait un impact? Certes. Certes. Mais moi, je suis allé à l'université. J'ai eu des bons, j'ai eu des moins bons professeurs. Mais que les professeurs soient bons ou que les professeurs ne soient pas bons, à la fin de la journée, c'est quoi? Il a fallu que j'aille chez moi et que j'ouvre mes livres. Et que j'étudie. Le fait que mon professeur soit bon et excellent ne garantit pas que je vais passer mon année. Le fait que mon professeur soit le pire au monde ne garantit pas que je vais échouer mon année. Oui, mais c'est à cause de mon prof. Ah ouais. Combien de fois j'entends ça, là? Les élèves. Ah, j'ai échoué mon français, hein? Ah, c'est à cause de mon prof. Hein? OK, c'est à cause de mon prof. Ah. Donc, tu n'avais aucun livre où regarder. Tu n'avais aucune... Hein, écoute, surtout aujourd'hui à l'école, hein, je vous dis, vous avez des livres, vous avez des récupérations, vous avez des amis qui sont bons, des fois, meilleurs que vous, OK? Il faut l'avouer. Hein. Les ordinateurs, il y a juste au collège, à tous les midis, il y a de la récupération. Si tu as de la difficulté dans quelque chose, écoute, il y avait moyen pour un élève d'aller étudier à tous les midis, d'avoir une récupération personnelle presque avec un professeur. Donc, viens pas me dire que c'est à cause de ton prof. Okay. Mais c'est comme dans notre nature humaine. C'est facile. C'est dur de prendre la responsabilité de nos actions. N'est-ce pas? On n'est obligé à rien, là. Avec Dieu, vous êtes obligé à rien. Vous n'êtes pas obligé de prier, même. Hein? Mais quelque part, il faut comprendre que si on ne prie pas, on passe à côté de quelque chose de gros, là. Surtout si la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Avoir la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est d'avoir la relation avec Dieu. Mais comment est-ce que tu veux avoir une relation avec quelqu'un avec qui tu ne passes pas de temps? Quand je regarde ma femme, je ne me dis pas, « Ah, OK, je n'ai pas été là de la semaine. Bon, je vais passer 30 minutes, je m'assois à côté de ma femme. Bon, OK, chérie, j'ai 30 minutes à te donner aujourd'hui. » On est mariés, là. On est mariés. Il faut que je passe du temps avec toi. Hein? Je suis désolé. Si c'est comme ça dans votre couple, ça doit être un peu difficile, non? Mais pourtant, on est l'épouse de Jésus-Christ. Pourtant, si en tout cas je me fie sur mon expérience, il ne m'a pas obligé à l'accepter. Ça a été une décision intentionnelle de ma part. Et j'ose avancer, que ça a été la même chose pour chacun d'entre vous qui avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie. Mais la question que je vous pose maintenant, c'est quoi? Vous l'avez accepté, pourquoi? Comme femme de ménage? Qui balaie les choses qui ne marchent pas dans votre vie? Tiens, voilà, merci. Comme un génie? Hey, j'ai besoin de ça, merci. Vous l'avez accepté, pourquoi? Pourquoi vous êtes marié? Est-ce que vous vouliez une femme de ménage? Hein? OK? Je ne veux pas créer des problèmes ce matin entre les couples. OK? Je m'excuse. Mais quelque part, moi, avant de me marier, j'étais capable de faire le ménage. Hein? Je me faisais à manger seul aussi. Donc, c'est pas pour ça que je me suis marié. OK? Je me suis marié parce que je l'aimais. Et je me suis marié surtout, par la foi que c'était la femme que Dieu avait pour moi. Et qu'il voulait que j'en prenne soin. Donc maintenant, quand je passe du temps avec ma femme, c'est oui des fois pour lui faire plaisir, OK? Parce qu'en couple, des fois on fait ça, oui, des choses juste pour faire plaisir à l'autre, OK? Mais c'est parce que ça me fait plaisir aussi. Donc quand vous êtes appelé à passer du temps avec Dieu, quand vous allez à l'église et on vous dit il faut prier, c'est pas « Ah, j'aime pas ça prier. » OK, c'est correct. Mais sache que la prière, c'est fort, c'est puissant. Sache que dans la prière, il y a non seulement cette communion avec Dieu, mais sache qu'il y a multiples sortes de prières. Sache qu'alors que tu entres dans la prière avec Dieu, il t'ouvre la porte vers ces autres types de prières, la prière de la foi, la prière d'intercession. Amen. Donc aujourd'hui, mes amis, il n'y a rien que vous êtes obligés de faire. Hein? Mais à la fin de la journée, s'il y a quelque chose que tu désires, il va falloir que tu décides ce que tu es prêt à faire pour ça. Hein? C'est pas il faut que tu mettes minimum 10 minutes. Okay? C'est pas il faut que tu mettes minimum 30 minutes ou quoi que ce soit. Sinon, si on fait ça, qu'est-ce que ça vient? Ça devient la loi, la routine. Si tu veux avoir une bonne communion avec Dieu, il faut que tu pries au minimum 30 minutes par jour. Non. Parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas faire ton 30 minutes par jour. Pendant 2 mois, pendant 3 mois, puis là, tout va aller bien. Et là, un jour, il va t'arriver quelque chose. Et tu vas dire, pourquoi Dieu? Pourtant, j'ai lu ma Bible et j'ai prié 30 minutes par jour. Et lorsque l'ennemi essaie de nous enlever notre foi, c'est en essayant de nous mettre des raisonnements comme ceux-là. OK? Qu'on peut faire quelque chose pour mériter quelque chose de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une nouvelle pour vous. On n'a jamais rien fait qui méritait quoi que ce soit de Dieu. Alors qu'on était les pires, la Bible nous dit, alors qu'on était ennemis de Dieu, étrangers de Dieu. Alors qu'il n'y avait rien dans nos pensées qui nous amenait même à faire quelconque geste ou pensée qui allait dans le sens de Dieu, Dieu nous a aimés. On ne pouvait pas être pire que ça. Imaginez votre vie avant, imaginez votre point le plus bas, imaginez votre point le plus éloigné de Dieu. Dites-vous qu'il vous a aimés à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez pu faire à ce moment-là? Rien. Donc, pourquoi aujourd'hui, faudrait se casser la tête pour faire des choses, pour recevoir quelque chose de plus de Dieu, alors que la Bible nous dit en Colossiens que vous avez tout pleinement en lui? Lorsqu'on parle de la foi, c'est la foi dans l'Évangile de Dieu, le réel Évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Écoutez, le verset m'échappe, c'est dans 1 Corinthiens, je crois. La Bible nous dit quoi? Je paraphrase, mais la Bible nous dit que si Satan, si les principautés de ce monde avaient su ce que la crucifixion de Jésus-Christ avait emporté, ils ne l'auraient pas crucifié. C'est ce que la Bible nous dit. C'est la sagesse infinie, la sagesse cachée de Dieu que les princes de ce monde n'ont pas su, parce que s'ils l'avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que du jour où Dieu a maudit Satan dans le jardin, à partir de ce jour-là, la Bible nous montre qu'il en a après Dieu, qu'il en a après sa création, nous montre qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse, et même nous montre ce qui s'est passé avec Jésus, qu'il a essayé de tuer tous les enfants. Pourquoi? Pour éliminer Jésus. Et encore là, il est entré en Judas pour qu'il soit livré. Puis finalement, ouais, quand Jésus a été sur la croix, Emmanuel, il s'est frotté les mains, il s'est applaudi, il a dit bravo. Mais s'il avait su quoi? Mes amis, ce genre de verset-là, ça nous dit qu'il doit y avoir quelque chose de plus. S'il avait su quoi? S'il avait su le genre de pouvoir, le genre de position dans laquelle nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons. S'il avait su que le fait que Jésus est au ciel a permis de répandre sur tous ceux qui croient en lui le même Saint-Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts, le même Saint-Esprit qui était là à la fondation du monde, le même Saint-Esprit qui a agi dans le livre des Actes, dans les Évangiles, s'il avait su qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement un Jésus-Christ, un roi qui marche, que je vais essayer de tuer, non, maintenant, il y en a des millions. S'il avait su. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est trop tard pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous secoue. Il nous secoue. Parce que si seulement il est capable d'enlever notre foi en cette réalité-là, bien que nous sommes héritiers de tout, nous demeurons comme des esclaves. Donc il n'essaie pas de nous enlever notre héritage, parce qu'il ne peut pas nous l'enlever. Ce qu'il essaie de t'enlever, c'est la connaissance de cet héritage. C'est la foi dans cet héritage. Parce que j'ai beau avoir 1 million, 10 millions de dollars dans mon compte de banque, mais si je ne le sais pas, et si je n'ai pas de carte, et si je n'ai pas d'accès à ça, ça va rester là. Je vais aller cogner aux portes, je vais aller quémander, je vais aller demander de l'argent, et pourtant j'ai des millions de dollars dans mon compte de banque. Tu te dis, mais pourquoi? C'est totalement ridicule. Mais si je ne le sais pas? Amen. Roxane Danto a dit quoi? Elle a dit, hey, on a tous au moins 5 $ qui traînent dans nos poches. Je ne sais pas où est-ce que... Je n'ai pas souvent de 5 $ qui traînent comme ça dans mes poches. Hein? Mais si tu ne sais pas que tu as 5 $ dans tes poches, tu arrives en arrière et tu vois hein, les beaux bloc-notes et tu as vraiment à cœur de faire une offrande pour le pain quotidien, mais tu ne sais pas, tu dis, ah, je suis désolé, mais j'ai juste ma carte avec moi aujourd'hui, j'ai pas d'argent. Et tu retournes chez toi, tu enlèves tes habits, tout ça, tu enlèves tes pantalons et là, boum, ah, il y a un 5 $ qui... Hey, qui ça s'est jamais arrivé, ça? Combien de fois hein, je suis arrivé au dépanneur ou quoi que ce soit, puis tu dis, ah, j'en ai pas assez. Pour finalement rentrer à la maison pour voir que, oh, ce qui te manquait, tu l'avais dans tes poches. Mais le fait de l'avoir et de ne pas le savoir ne t'a servi à rien. Tu avais là, sur place, au magasin, le pouvoir d'acheter ce que tu voulais. C'est pour ça que la Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Parce que nous avons ici... Nous avons ici tout ce dont nous avons besoin est ici. Là. Je vous le dis, ça. Je vous le dis. Sans exception. Mais aujourd'hui, tu vois... c'est pénible. C'est pénible de lire. Et c'est pénible d'essayer de comprendre. Ah, je comprends rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va chercher ailleurs. OK? On va chercher dans ce qui se fait ailleurs. On va chercher les solutions en dehors de la parole de Dieu. Mais mes amis, si vous voulez régler des problèmes spirituels, s'il vous plaît, aller au moins vers des gens qui marchent selon l'esprit, non? Aller vers la parole de Dieu. Comprenez? Ça va toujours, ça va me rester, ça va m'outrager tout le temps. Un homme qui va voir quelqu'un, qui va rencontrer quelqu'un, qui lui dit, « Oh, dernièrement, j'ai des pensées, des tentations de tromper ma femme. Je ne sais pas, il y a quelqu'un avec qui je travaille, et ça ne va pas bien à la maison. Et là, à chaque fois que je vois cette femme-là, évidemment, je suis tenté et tout. Qu'est-ce que je fais? » Donc, après quelques séances, la personne lui dit, « Écoute, c'est sûr que si tu restes avec cette tentation-là, ça va toujours te traîner en arrière de la tête. Donc, vas-y. Couche avec cette femme. Dégage-toi. Tu vas avoir l'esprit clair, l'esprit libre, et tu pourras prendre la bonne décision par la suite. Tiens, ça va faire 100 $. C'est ça. Okay. Il y a des choses comme ça qui m'emportent un peu, donc je préfère dire voilà. Donc, okay, qu'est-ce qu'on va voir ensemble là, les prochaines semaines? On va voir que il y a deux mondes. Hein? Okay, Jean 17, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Okay? Il y a une collision et clash constant de deux mondes, là, constant. Et c'est là que ça devient difficile. Pourquoi? Parce que quand on parle de guérison, ce monde me dit j'ai mal partout, mais l'autre monde me dit je suis déjà guéri. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Okay? C'est ça le combat de la foi. Parce que la seule façon de subsister et de vivre dans ce royaume, c'est par la foi. Et si tu vis dans ce royaume par la foi, tu amènes maintenant dans ce monde la réalité du royaume. Parce qu'il y a la prédominance sur ce qui se passe ici. Hein? C'est pour ça que la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Renouvellement de l'intelligence, c'est qu'il faut penser autrement. C'est une totalement différente, autrement, blabla, nouvelle manière de penser. Nouvelle manière de penser. Qu'on ne peut pas espérer vivre. Parce que si tu vis dans le royaume avec la pensée du monde, c'est la confusion. C'est que non seulement tu vas être troublé dans le monde, mais tu ne seras même pas capable d'avoir accès aux choses qui sont à toi dans le royaume. Parce que les choses qui sont à toi dans le royaume, tu as accès non pas avec la pensée du monde, mais simplement par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hein? Donc on va parler de ces deux mondes-là qui entrent en collision. Amen. Qui vivent, si je peux m'exprimer ainsi, qui partagent à quelque part le même espace. Là. Amen. C'est que ces deux mondes-là sont là en même temps. C'est à nous de décider maintenant dans lequel on vit. Et pourquoi j'ose dire que c'est si difficile de vivre dans le royaume? Hein? C'est parce que nous ne sommes pas encore assez conscients des lois du royaume, des règles du royaume. Hein? Trop souvent, la réalité de ce monde dans nos vies prédomine sur ce que la parole de Dieu nous dit. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre? Trouvera-t-il encore des gens qui vont persister à prier, à prier, à prier, à prier et encore déclarer ce que la Bible dit plutôt que de se soumettre à ce que le monde nous montre? Combat le bon combat de la foi. Parce que oui, c'en est un. J'aimerais vous dire autre chose, mais c'en est un. Nous sommes un peu dans le, comment dire, au milieu d'une bagarre qui, à quelque part, ne nous est pas dirigée jusqu'à un certain point. C'est Satan versus Dieu. Amen. Et on se trouve au milieu de ça. On se trouve au milieu de ça d'un côté méprisé, parce qu'on porte en nous justement l'image du Dieu vivant. Et d'un côté, nous avons justement reçu cette responsabilité parce que nous portons en nous l'image du Dieu vivant et que nous sommes appelés dans ce monde à rayonner comme lui-même a rayonné lorsqu'il était ici sur terre. Et parce que c'est là notre mandat, on est secoué pour que si c'est possible, les circonstances enlèvent de nous cette foi. Parabole du semeur, hein? C'est exactement ça. C'est ça la parabole du semeur. Et on va voir ça également ensemble. Les deux mondes. La parabole du semeur, cette semence qui est semée, que l'ennemi vient tout de suite pour l'enlever. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle est plantée, elle porte du fruit. Donc, il veut l'enlever rapidement. Il veut enlever rapidement quoi? La foi. On va parler justement de notre ennemi. OK? J'aime pas beaucoup parler du diable. Mais vous savez, lorsqu'on fait face à un adversaire, c'est quand même bien de savoir à qui on a affaire. N'est-ce pas? Il n'y a pas un boxeur qui monte sur le ring contre quelqu'un avant d'avoir préalablement étudié son adversaire. Il n'y a pas une équipe qui se présente contre une autre équipe sans avoir préalablement étudié son adversaire. Il y a les élections, bientôt aux États-Unis et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens étudient leur adversaire. Étudient leur force, étudient leur faiblesse. Peut-être malgré nous, maintenant, nous sommes dans un combat, dans une bataille. Nous avons besoin d'étudier notre adversaire parce que la Bible dit « Nous n'ignorons pas les desseins du diable. » Parce que si on sait comment il agit, c'est beaucoup plus facile. Hein? C'est comme les gardiens de but au hockey, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils étudient les autres joueurs. Ils étudient, ils se pratiquent maintenant pour les tirs de pénalité à la fin des matchs. Ils étudient un joueur. Ils savent maintenant que tel joueur fait une feinte de tel côté. La première fois, le joueur a fait sa feinte à droite. Oh, le gardien, oh, il s'est tassé. Finalement, le joueur est revenu et il a marqué. Mais maintenant, il est retourné chez lui. Il a regardé, il a étudié les cassettes. Il a dit, OK, 9 fois sur 10. 9 fois sur 10, ce joueur-là fait une feinte à droite et il revient à gauche. Donc, la prochaine fois qu'il vient contre lui dans un match, le joueur fait la feinte à droite. Le gardien bouge pas. Il se tasse à gauche, il fait l'arrêt. C'est la même chose pour nous, là. Si on sait comment l'ennemi agit dans nos vies, on est capable de dire non, 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 dans le nom de Jésus. Parce que si on ne sait pas, on va l'accepter, on va l'accepter. Et qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est comme, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour laisser la porte ouverte? Qu'est-ce que j'ai fait pour ci? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Pourquoi est-ce que Dieu ne me protège pas? OK. Non, 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 non. Il faut savoir qui est notre ennemi. Ensuite, connaître notre allié, connaître l'objet de notre foi. L'objet de notre foi. Amen? Parce que c'est beau d'avoir la foi, mais la foi en quoi? Parce que plusieurs exercent leur foi. Mais si tu exerces ta foi dans la mauvaise chose, il n'y a pas de résultat. Amen? Donc, l'objet de notre foi. Comment développer notre foi? C'est ce qu'on va voir également ensemble. On va parler de la persévérance. Persévérance. Aïe, aïe, aïe. Et on va parler également de comment garder la foi à travers les épreuves et la souffrance. C'est quoi la souffrance? Pourquoi la souffrance? Est-ce que Dieu envoie la souffrance pour nous former? Hein? La souffrance, c'est quelque chose qui est délicat, hein? Délicat. Mais on va en parler. Hein? On va en parler. Pourquoi? Comment l'affronter? Comment y faire face? Amen? Parce que c'est... Wow, je vais inviter l'équipe de louange à venir devant. Amen? Aujourd'hui, vraiment, une simple introduction, OK? Une simple introduction dans ce qui va suivre, dans ce que le Saint-Esprit va nous amener à cœur, mais c'est quoi? C'est la foi, là. C'est la foi. La foi, notre âme la plus puissante, notre âme la plus précieuse. Et je pense que si on relit Luc chapitre 22, verset 31, « Simon, Simon, fais attention, je vous dis, faites attention. Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. Comme on secoue le blé, pour le séparer de la balle. Et Apocalypse 12, verset 12, nous dit aussi, c'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer. Car le diable est venu, ou plutôt est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Okay? Une grande colère. Et justement, si on n'est pas ancré dans la foi, dans la parole, on entend ça et ça peut faire peur. Okay? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un animé d'une grande colère? Okay? En termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire tirer sur tout ce qui bouge. Pourquoi? Parce qu'il lui reste peu de temps. Son temps achève. À combien plus forte raison est-ce important pour nous maintenant de tenir ferme jusqu'à la fin? De tenir ferme dans notre foi. Dans le plus beau cadeau, dans le plus beau don qu'on aurait pu avoir, c'est ça, c'est notre foi. Car qui est-ce qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et aujourd'hui, justement, avant de quitter, je vais vous donner cette opportunité-là. Cette opportunité-là de croire de votre cœur et de confesser de votre bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que quand on en a lu ensemble, c'est quoi? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en quoi? Notre foi dans le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que si on croit que Jésus est le Fils de Dieu, on croit aussi qu'il est mort pour nos péchés. On croit aussi qu'on a libre accès devant Dieu. On croit aussi qu'il n'y a plus rien qui nous retient maintenant pour être acceptable devant Dieu. Mais on croit également aussi qu'on a le pouvoir et même de changer toute circonstance, toute situation dans nos vies. Pas par nos propres forces, par la foi. Que Dieu est un Dieu bon. Que Dieu est un Dieu patient. Que Dieu est un Dieu miséricordieux. Qui nous aime. Et vous pouvez avoir l'assurance ce matin que s'il y a quelque chose de mal dans votre vie, s'il y a quelque chose qui vous apporte autre chose que la paix et la joie et le bonheur dans votre vie, vous pouvez être certain que cette chose-là n'est pas de Dieu. Parce que la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel sont accompagnées d'aucun chagrin. Mais le don de Dieu, au contraire, produit la vie, produit la joie, produit l'amour, produit la paix. Mais je sais qu'il y a des gens, c'est pas du tout comme ça que vous vous sentez ce matin. Hein? Mais la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour nous. Qu'on n'avait jamais en nous-mêmes la capacité de nous approcher de Dieu, la capacité d'être assez bon pour Dieu. Mais il a tout fait pour nous. Pour que maintenant on puisse vivre cette vie nouvelle. Oui, vraiment une vie nouvelle. Oui, mais comment ça se peut? Crois seulement. C'est le début de tout. Donc, s'il y a quelqu'un ici ce matin, amen, c'est très important. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais confessé de sa bouche, la Bible nous dit confesser, déclarer, cru vraiment dans son cœur, pris cette décision. Vous êtes ici, vous le savez. Vous savez s'il y a un jour dans votre vie où vous êtes mis le pied à terre, vous avez dit « oui, je crois au Seigneur Jésus ». Mais si vous êtes ici, il n'y a jamais eu une journée comme ça dans votre vie. C'est maintenant. C'est maintenant l'opportunité pour vous. C'est maintenant l'opportunité pour vous de vous décharger sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis et d'accepter cette vie nouvelle qu'il vous donne, cette vie nouvelle que vous acceptez par la foi et que vous êtes appelé également à vivre par la foi en lui. Donc s'il y a quelqu'un ce matin qui pour la première fois veut dire oui, oui au Seigneur Jésus, okay? Ou s'il y a quelqu'un qui pendant un temps, pour des raisons qui sont entre vous et Dieu, qui est éloigné de lui, qui n'avaient pas eu cette marche de la foi. Mais qu'aujourd'hui, vous voulez dire, Seigneur, je te demande pardon et je reviens vers toi, Seigneur. Donc, si c'est votre cas dans une de ces deux situations, je vais vous demander un acte de foi également. Je vais compter jusqu'à trois et à trois, simplement, juste lever votre main. Levez votre main en signe de dire oui, 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 c'est assez. C'est assez, j'ai assez marché de mes propres forces, j'ai assez essayé par moi-même. Je veux revenir vers toi, Seigneur. Je veux donner ma vie à toi, Seigneur. Et on va tous s'unir avec vous pour faire une prière simple, mais une prière qui va déclarer et donner votre cœur au Seigneur Jésus. Donc, un, deux, trois, s'il y a quelqu'un ce matin, juste levez votre main. Amen. Une personne ici, deux personnes. Alléluia. Amen. Amen. OK? Je vais demander à tout le monde de se lever, s'il vous plaît. De se lever. Et je vais demander à ceux, celles, si vous avez levé votre main, je vais vous demander de venir me joindre devant. Amen. Qu'on prie cette prière ensemble. Et si vous voulez les accompagner également, si vous n'avez pas levé votre main, vous auriez dû lever votre main. Et pas trop tard. Amen. 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 Donc, on va les accompagner dans la prière. OK? C'est pas grave. L'important, c'est de faire cette prière. Donc, peu importe où vous êtes. Amen. Peu importe où vous êtes en ce moment. Que ce soit la gêne ou que ce soit quoi que ce soit qui vous a empêché de lever votre main, c'est correct. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prière ensemble. Et faites cette prière-là avec foi. Faites cette prière-là avec conviction. Amen. Faites cette prière-là pas pour les hommes, pas pour ceux qui vous entourent, là. Quand on vient en avant, c'est pas pour que les autres nous voient, mais c'est pour que le Seigneur nous voit. Donc, où est-ce que vous êtes là? Faites la prière pour que lui entende votre cœur. Parce que ces mots-là, c'est pas ces mots-là en soi qui ont du pouvoir. C'est pas la prière qui vous sauve, mais c'est le cœur qui est mis en arrière de cette prière-là. Amen. Oh, alléluia. Donc, on va dire ensemble ce matin, je vous demande tous de vous joindre à eux, de vous joindre à nous. Donc, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ton sacrifice à la croix. Je crois que tu es mort pour moi, qu'à la croix, tu as cloué mes péchés. Tu les as enterrés avec toi. Et comme tu es ressuscité le troisième jour, en nouveauté de vie, avec une vie sans péché, avec une vie sans manquement. Je crois que moi également, en mettant ma foi en toi, en mettant ma foi à ce que tu as fait pour moi, je renais de nouveau. Wow. Sans péché, avec une vie nouvelle. Et aujourd'hui, Seigneur, je mets ma vie entre tes mains. Je te remercie d'avance pour ce que tu es en train de faire présentement dans ma vie et pour ce que tu vas faire. Et je m'engage à marcher avec toi par la foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.